Écoutez, passé, présent, l'émission historique de Radio Judaïka, émission spéciale aujourd'hui à l'occasion de la célébration du 75e anniversaire de la création de l'État d'Israël. Nous allons parler de Theodor Herzl, celui qui est considéré comme le père de la nation israélienne. C'est à Pest, en Hongrie, que Theodor Herzl voit le jour le 2 mai 1860 dans un immeuble situé à proximité de la nouvelle synagogue inaugurée l'année précédente. Sa famille quitte la Serbie au presque mi-temps du XVIIIe siècle pour s'établir dans l'empire des Habsbourg. Son père, Jacob, est commerçant. En 1858, il épouse Johanna Diamant, fille d'un industriel du textile. Théodore et sa sœur Pauline, son aînée d'un an, vivent une enfance heureuse dans le confort d'une famille bourgeoise et germanophile. À 6 ans, Théodore entre à l'école primaire juive. Il pratique déjà 3 langues, le hongrois, l'allemand parlé en famille et le français enseigné par son précepteur. C'est un élève studieux qui excelle dans l'étude des langues, des sciences et de l'arithmétique. Cependant, il délaisse l'enseignement religieux. L'hébreu biblique ne le passionne guère. À l'automne 1870, Théodore intègre le collège technique municipal de Pest. Il ne s'y plaît guère. Ses résultats sont médiocres. Il se réfugie dans la littérature et l'histoire qui le passionnent. Il poursuit ses études à domicile avec l'aide d'un précepteur et en février 1875, il entre au gymnase protestant de Budapest, les villes de Buda et de Pest ayant été unifiées en 1872. Le cursus classique et l'atmosphère évangélique libérale le séduisent. Son adolescence est marquée par un drame familial. Le 7 février 1878, Théodore perd sa sœur Pauline, est foudroyé par le typhus à 19 ans. 15 jours plus tard, pour fuir le lieu de la tragédie, la famille s'installe à Vienne, dans un vaste appartement situé au 3e étage d'un immeuble élégant de la Praterstraße. Théodore suit des études juridiques à l'université. Le 16 mai 1884, il devient docteur en droit. Il se consacre également à des travaux de plume. Il écrit des pièces de théâtre consacrées à la puissance de l'argent, à l'arrogance des nouveaux riches, aux conventions sociales et à l'aristocratie. Il obtient une mention au concours de la nouvelle du Wiener Allgemeine Zeitung. Il voyage à Berlin, Budapest, Paris, Deauville et Salzbourg, où il effectue un stage au sein de la magistrature. Au sortir de ses études, il s'oriente vers le journalisme. La Neue Freie Presse, le quotidien viennois de référence, publie ses chroniques. C'est un début prometteur. Le 25 juin 1889, Herzl épouse Julie Naschauer, fille d'un riche entrepreneur viennois qui a fait fortune dans la recherche pétrolière et les travaux d'endiguement du Danube. Le couple a bientôt 2 enfants, une fille prénommée Pauline, née le 4 mars 1890, et le 10 juin 1891, Julie donne naissance à Hans. Le cercle familial s'élargit le 20 mai 1893 avec la naissance de Margarete, surnommée Trude. Pourtant, les relations conjugales sont compliquées. Les tensions sont fréquentes. Le divorce est évoqué. Julie reproche à Théodore de dilapider sa dot en des dépenses inconsidérées. Elle voue également une haine tenace à sa belle-mère qui s'immisce dans la gestion du foyer. Le 6 octobre 1891, Herzl s'installe à Paris. Il est le correspondant permanent de la Neue Freie Presse. Il se passionne pour la vie politique française. Il est bientôt rejoint par ses parents et Julie, accompagnée de Pauline et Hans. La famille réside dans un grand appartement près du parc Monceau. Herz se détache du judaïsme. Il prône l'assimilation des Juifs. Il est même un temps tenté par la conversion au christianisme. Seule la loyauté envers son père l'en dissuade. Mais il estime que le destin de son fils pourra être différent, je le cite. « Pour son bien, je préférerais qu'il appartienne le plus tôt possible à la communauté chrétienne et que lui soient ainsi épargnées les souffrances et les humiliations. » Dans un dialogue avec Ludwig Speidel, journaliste de la Neue Freie Presse, il affirme « Je comprends l'antisémitisme. Nous, les Juifs, nous sommes demeurés, même si ce n'est pas notre faute, des corps étrangers au sein des diverses nations. » Herzl récuse le sionisme. En 1873, Alexandre Dumas fils, inspiré par le rêve romantique du retour des Juifs en Palestine, écrit dans sa pièce de théâtre « La femme de Claude » « Nous ne voulons plus être un groupe, nous voulons être un peuple, une nation. La patrie idéale ne suffit plus, la patrie fixe et territoriale nous est devenue nécessaire. » En octobre 1894, lors de la reprise de cette pièce, Herzl condamne cette résurrection des Juifs comme nation. Il oppose à Alexandre Dumas fils l'argumentation suivante. Le bon Juif Daniel veut retrouver sa patrie perdue et réunir à nouveau ses frères dispersés. Mais un homme comme lui devrait savoir que les Juifs d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec leur patrie historique. Si véritablement les Juifs devaient y retourner un jour, ils s'apercevraient dès le lendemain qu'ils ont depuis longtemps cessé d'être un peuple. Ils sont depuis de longs siècles enracinés dans des patries nouvelles, différentes l'une de l'autre. Et les quelques ressemblances qu'ils ont entre eux ne tiennent qu'à l'oppression qu'ils ont eu à subir. Tous les opprimés ont les mêmes caractéristiques. Dès que l'oppression faiblit, ils se comportent en hommes libres. C'est l'affaire Dreyfus qui favorise la conversion de Herzl au sionisme. Il l'affirme avec force, le procès d'Alfred Dreyfus, auquel j'assistais à Paris en 1894, me rendit sioniste. Herzl retrouve Vienne à l'automne 1895. Il dirige maintenant la page littéraire de la Neue Freie Presse. Il achève la rédaction de son manifeste d'une centaine de pages intitulé Der Judenstaat, l'état des Juifs, proposition pour une solution moderne de la question juive, publié en 1896. Il rappelle la précarité de la situation des Juifs. Dans les pays où nous vivons depuis des siècles, nous sommes considérés comme des étrangers, souvent même par ceux dont les ancêtres n'y était pas établi alors que nos pères s'y lamentaient depuis longtemps. C'est donc en vain que partout nous sommes de braves patriotes. Plus loin, il poursuit, la question juive existe là où les Juifs sont en nombre, là où elle n'existe pas, elle est importée par les immigrants juifs, naturellement. Nous avons tendance à nous installer là où nous ne sommes pas persécutés, mais notre arrivée entraîne des persécutions. Pour Herzl, les Juifs constituent un peuple un. Il réfléchit à l'organisation d'un État en envisageant son mode de gouvernance. Il récuse absolument la théocratie. Les responsables religieux, écrit-il, n'ont pas à s'immiscer dans les affaires de l'État, car cette ingérence provoquerait des difficultés extérieures et intérieures. De plus, chacun des ressortissants de l'État des Juifs sera libre dans sa foi ou son incroyance. Chacun conservera sa langue, qui est celle de la chère patrie de ses pensées. La langue de communication la plus utile s'imposera d'elle-même comme langue principale. Le drapeau exclut tout symbole biblique. Je pense à un drapeau blanc, note-t-il, avec 7 étoiles d'or. La couleur blanche représente la nouvelle vie, une vie pure. Les étoiles sont les 7 heures dorées de notre journée de travail, car c'est sous le signe du travail que les Juifs se rendent dans le nouveau pays. Herzl considère la démocratie avec prudence. Elle mène au palabre parlementaire et à l'apparition de l'espèce si détestable des politiciens professionnels. Il se déclare favorable à une république aristocratique sur le modèle de la Venise du sortir du Moyen-Âge. Il situe cet État juif en Palestine qui est, je le cite, « notre patrie historique, inoubliable, son seul nom constituerait pour notre peuple un cri de ralliement d'une extraordinaire puissance ». Nous retrouvons passé présent dans un instant pour l'évocation de la vie de Theodor Herzl après avoir écouté Jean Ferrat, « Nuit et brouillard », c'était en 1963. Vous écoutez passé présent, émission spéciale consacrée à Theodor Herzl, le père de l'État d'Israël, à l'occasion du 75e anniversaire de l'État d'Israël. Le manifeste, rédigé en 1896, connaît un écho important. Il suscite incrédulité, irritation et méfiance. Cependant, il apporte à son auteur quelques soutiens précieux, dont celui du révérend William Eschler, chapelain de l'ambassade britannique à Vienne, qui fut le précepteur du second fils de Frédéric de Bade, l'oncle du Kaiser. Il favorise les relations entre Herzl et Guillaume II. L'aristocrate polonais Philippe Michael von Nevlinski lui ouvre les portes du gouvernement ottoman. Herzl effectue à 5 reprises le voyage à Constantinople dans l'espoir d'infléchir la position du sultan Abdulhamid II en faveur des Juifs. Le Kaiser soutient l'idée sioniste. Il se déclare favorable à la création d'un État juif sous protectorat allemand. Les Ottomans sont réticents. Guillaume II rencontre Herzl à Jérusalem, près de la porte de Jaffa, le 2 septembre 1898. Pourtant, les difficultés s'accumulent. Herzl alterne entre euphorie et découragement. Des rumeurs tendent à discréditer son action. Il comprend l'impérative nécessité d'organiser le mouvement sioniste. L'idée d'un congrès s'impose. Il se tient à Bâle du 29 au 31 août 1897. 246 délégués viennent de 20 pays, mais seuls les 69 représentants des associations sionistes possèdent le droit de vote. Le monde germanique donne le ton, la plupart des intervenants s'expriment en allemand, les juifs des pays musulmans sont pratiquement absents, seuls ceux d'Algérie et de Palestine sont présents. 11 rabbins sont également là à titre personnel, mais l'essentiel des participants ne sont pas pratiquants. Herzl est accueilli par un tonnerre d'applaudissements. Il est incontournable. Il domine largement les débats. La résolution finale constitue le programme du sionisme. Elle proclame « Le sionisme aspire à la création en Palestine, pour le peuple juif, d'un foyer garanti par le droit public. À cette fin, le Congrès envisage d'employer les moyens suivants. L'encouragement, par des moyens appropriés, à l'installation en Palestine d'agriculteurs, d'artisans et de commerçants juifs. L'organisation et l'unification de toutes les communautés juives grâce à des institutions appropriées, locales et générales, conformément aux lois de leurs pays respectifs. Le renforcement du sentiment juif et de la conscience nationale. Enfin, des démarches préparatoires en vue d'obtenir des gouvernements le consentement nécessaire pour atteindre le but du sionisme. Herzl est porté à la présidence de l'organisation sioniste, dont il installe le siège à Vienne. Le secrétariat est modeste. Il comprend une poignée de permanents salariés et de militants bénévoles. Une structure bancaire, le Fonds colonial, est enregistrée auprès de la Banque d'Angleterre le 20 mars 1899. 200 000 actions sont souscrites pour les trois quarts auprès des Juifs russes. Le Fonds national juif est créé en 1901. Il a pour vocation l'acquisition de terres en propriété collective à mettre à la disposition de colons juifs en Palestine et en Syrie. Herzl souhaite la tenue d'un congrès sioniste annuel. Le deuxième a lieu du 28 au 30 août 1898, toujours à Bâle. En seulement une année, le nombre des sociétés sionistes qui forment le socle de l'organisation est multiplié par 9. Elles sont désormais 913. Les 349 délégués se comportent en véritable parlement sioniste. Le troisième congrès se déroule du 15 au 18 août 1899. Herzl a l'habitude de résider en la chambre 126 de l'hôtel des Trois Rois, dont le balcon offre une magnifique vue sur le Rhin. C'est aujourd'hui un lieu de pèlerinage. Le quatrième congrès se réunit dans le Queen Hall de Londres du 13 au 16 août 1900. Il rassemble 498 délégués. Le cinquième et le sixième congrès retrouvent les rives du Rhin à Bâle du 26 au 30 décembre 1901, puis du 23 au 28 août 1903. L'ultime rapport présenté par Herzl est empreint d'un profond pessimisme sur la condition juive. Je le cite. « Les masses juives s'enfuient des pays où on les massacre. Les autres peuples se barricadent derrière leurs portes par réflexe. Il est vivement contesté. Sa diplomatie très personnelle lui est reprochée. En effet, ses négociations avec le gouvernement anglais aboutissent seulement à la proposition d'un territoire en Ouganda qui est rejeté par les congressistes. Les autorités britanniques ne concèdent pas de terres à Chypre ou dans le Sinaï comme le souhaite Herzl, qui s'est montré compréhensif avec la sublime porte lors des massacres des populations arméniennes de 1896. Enfin, il s'est rendu en Russie à la rencontre des instigateurs des pogroms. Des voix s'élèvent pour le qualifier de traître. Stefan Zweig, qui éprouvait de la sympathie pour Herzl, rapporte dans Le Monde d'hier combien il fut déconcerté par, je le cite, « l'espèce de manque de respect que les membres du mouvement sioniste témoignaient à leur président ». Herzl est épuisé. Il a dilapidé une grande partie de sa fortune en faveur du sionisme. Cependant, il poursuit ses entreprises diplomatiques. Le 21 janvier 1904, il arrive à Rome. Le lendemain, il est reçu par le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Raphaël Méry del Val. 3 jours plus tard, il obtient une audience avec le pape Pie X, qui s'oppose à l'idée que Jérusalem puisse passer sous la souveraineté d'un État juif. Dans l'intervalle, Herzl est accueilli le 23 janvier au palais du Quirinal par le jeune roi d'Italie, Victor Emmanuel III, qui l'assure de sa sympathie. Enfin, le 30 avril, il rencontre à Vienne le ministre austro-hongrois des Affaires étrangères, Agenor Guluszewski. Ce brillant aristocrate galicien cherche à établir une paix européenne par un rapprochement avec la Russie sur les questions orientales. Il manifeste un soutien total au projet sioniste. Au sortir de cette séquence diplomatique, Herzl est à bout de force. Il déclare « Je veux oublier pour un temps roi et pape, ministre et politique, journaux et journalistes. Il a un urgent besoin de repos. » En décembre 1903, le professeur Gustav Singer, cardiologue à la faculté de médecine de l'Université de Vienne, lui diagnostique une lésion du cœur qui préfigure une rapide dégénérescence du muscle cardiaque. Son espérance de vie est courte. Herzl se sait condamné à brève échéance. Le 3 juin 1904, il part se soigner dans les Alpes. Il contracte une mauvaise bronchite qui évolue en pneumonie. Il meurt dans l'après-midi du 3 juillet à l'âge de 44 ans. Il est inhumé le 7 juillet au cimetière viennois de Döbling. Un cortège de près de 7000 personnes accompagne son cercueil. Le 16 août 1949, le jeune État d'Israël réceptionne triomphalement la dépouille de son père fondateur. Il repose désormais à Jérusalem, au sommet du mont qui porte son nom, dans un tombeau de marbre noir.